Il est 13h30 à Paris et à Kinshasa. Une heure de moins en temps universel, vous êtes sur RFI. Afrique Midi, bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Clotilde Dumais, bonjour à toutes et à tous. C'est désormais officiel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne sont plus membres de la CDAO. Dans un communiqué diffusé ce matin, la communauté ouest-africaine offre tout de même un sursis et le maintien des avantages en matière de circulation des biens et des personnes le temps des discussions. Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, le politologue malien Oumar Berthet est notre invité. La situation à Goma après l'entrée dans la ville de combattants du M23 et de soldats rwandais. Quelques tirs résiduels en périphérie ce matin, mais plus d'affrontements. Le M23 qui va continuer à avancer, déclare à l'agence France Presse l'ambassadeur rwandais itinérant pour la région des Grands Lacs. On s'intéressera aussi dans Afrique Midi aux conclusions du rapport de la commission de chercheurs chargée d'analyser le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes camerounais. Il a été remis ce rapport hier au président Paul Biya à Yaoundé. Le Mali, le Niger et le Burkina ne sont donc officiellement plus membres de la CDAO. Ces trois pays de l'Alliance des États du Sahel avaient annoncé leur retrait le 28 janvier avec effet immédiat l'an dernier. Les statuts de la CDAO prévoyaient un délai de 12 mois à compter de ce mercredi. Les deux parties considèrent donc que ce départ est effectif. Des modalités de sortie devront désormais être négociées. Dans un communiqué diffusé ce matin, David Bachet, la CDAO offre tout de même une période de sursis au pays de l'AES, le temps de définir ses modalités.
Les principaux avantages continuent pour le moment de s'appliquer aux trois pays, dans l'intérêt supérieur des populations, indique la CDAO. Les passeports et cartes d'identité portant le logo de la CDAO restent valables. Les droits de circulation ou d'établissement continuent de s'appliquer. Les biens et services restent exemptés de droits de douane. Et cela jusqu'à nouvel ordre. Objectif, éviter une rupture trop brutale. La CDAO laisse par ailleurs 6 mois aux pays de l'AES pour revenir sur leur décision de retrait, une proposition balayée par les intéressés.
Alors, à partir d'aujourd'hui, la CDAO et les pays de l'AES doivent initier et négocier les formalités de retrait. De quoi s'agit-il?
Alors, les pays de l'AES ne quittent pas l'UMOA, hein, qui échappe aux accusations de manipulation dont la CDAO fait l'objet. La liberté de circulation des personnes et des marchandises reste donc garantie dans cet espace de 8 pays, dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Bénin. Pour le reste, le Mali, le Niger et le Burkina ont déjà annoncé que les ressortissants de la CDAO pourraient entrer sans visa dans leur espace. La réciproque devra être négociée, tout comme les nouvelles règles qui s'imposeront aux citoyens de l'AES installés dans les pays de la CDAO, aux entreprises créées par des ressortissants de l'AES dans l'espace CDAO et inversement. En jeu également l'avenir des sièges des institutions CDAO situées dans l'AES, des citoyens de l'AES fonctionnaires à la CDAO ou encore des programmes menés ou financés par la CDAO dans les trois pays. Agriculture, infrastructure, ces programmes sont nombreux.
On y revient dans la deuxième partie d'Afrique Midi. Le politologue malien Oumar Berthet est notre invité. Des tirs résiduels entendus ce matin à Goma après l'entrée des militaires du M23 et de soldats rwandais dans la capitale provinciale du Nord Kivu. Lisa Fabian, avant de voir avec vous où on en est sur place, ces déclarations de Vincent Karega dans une interview, l'ambassadeur itinérant du Rwanda pour la région des Grands Lacs et aussi ancien ambassadeur en RDC, a estimé que Goma n'était pas une fin en soi et que le M23 pourrait avancer plus au sud.
Effectivement, le diplomate rwandais interrogé par l'AFP a estimé que la progression du M23 va continuer vers le sud Kivu, à moins qu'un dialogue et des négociations ne soient engagés avec Kinshasa, ce dont il doute, je cite. Vincent Karega développe ensuite, soulignant que c'est une possibilité dans la mesure où les capacités militaires de la RDC étaient concentrées à Goma. Le reste du pays n'est pas aussi bien protégé, a-t-il encore déclaré à l'agence France Presse. Le diplomate rwandais suggère enfin que le M23 pourrait créer des alliances avec d'autres groupes armés pour consolider sa progression vers le sud. Pour l'heure, le calme est en tout cas revenu à Goma, mais la situation est difficile et c'est un lourd bilan humain qui se dessine. Les hôpitaux font face à un afflux de blessés et de nombreux corps sans vie sont acheminés dans les morgues de la ville. Les victimes sont en majorité des civils, selon le CICR. Les habitants qui osent de nouveau sortir dans les rues de la ville depuis hier sont à la recherche de vivres, mais aussi parfois de leurs proches disparus. Des combattants du M23 sont encore visibles dans certains quartiers de la ville. Nous nourrissant toujours la psychose et la peur à Goma.
À Kinshasa, la situation est revenue globalement au calme après les manifestations d'hier, des rassemblements pour protester contre l'offensive sur Goma. Ces rassemblements dans la capitale s'étaient transformés en attaques et pillages de certaines ambassades. Hier soir, le gouverneur de Kinshasa a reporté toutes les manifestations prévues aujourd'hui à une date ultérieure. Alexandra Brangeon, on vous retrouve en direct de Kinshasa. Ce matin, vous avez fait un tour dans le centre-ville. Quelle est l'ambiance ?
Oui, un centre-ville plutôt calme ce matin, mais il y a nettement moins de monde que d'habitude dans les rues. De nombreux magasins, notamment les grandes enseignes, sont fermés. Quelques rassemblements ont toutefois été signalés ce matin près de la gare centrale et du rond-point Kinmazière, mais ils ont été rapidement dispersés par la police congolaise. En tout cas, dans le centre, le passage des manifestants hier est visible. À l'ambassade de France, par exemple, il y a des impacts de pierres sur le portail. Une entrée secondaire a été incendiée. Les portes vitrées brisées. Et d'ailleurs, ce matin, une équipe était en train de murer cette entrée. Sur le mur extérieur de l'ambassade, des inscriptions suivantes. Les inscriptions suivantes, Macron tue au Congo où vous nous avez trahis depuis longtemps. Une dizaine de policiers et de militaires congolais sont d'ailleurs déployés devant le bâtiment. Ce sont les ambassades de l'Ouganda et du Kenya qui ont été les plus endommagées. Les manifestants ont pu pénétrer dans ces deux chancelleries. Tout à l'heure, j'y suis passé et toutes les vitres sont cassées. Les bureaux ont été pillés, ordinateurs emportés, les documents jonchent le sol et plusieurs voitures ont été incendiées. Ambassade du Congo-Brazzaville a également été visée. Les manifestants n'ont pas pu pénétrer dans l'enceinte, mais ils ont jeté des pierres sur la façade dont toutes les vitres sont brisées. Certaines pierres ont d'ailleurs atterri sur le bureau de l'ambassadeur. Heureusement, l'ambassadeur n'était pas présent, confiait tout à l'heure un diplomate en poste.
Alexandra Brangeon, envoyée spéciale de RFI à Kinshasa. Dans ce contexte, Esdras Dikoumana, la communauté internationale fait part à nouveau de son inquiétude par rapport à la situation qui prévaut en RDC.
Oui Nicolas, c'est signe de cette grande inquiétude. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est penché sur cette question cette nuit pour la deuxième fois en trois jours. Et cette fois, la Chine s'est jointe pour la première fois au pays qui demande à Kigali de retirer ses troupes de la RDC. Reste aujourd'hui cinq pays dont la Russie et les trois pays africains du Conseil qui se refusent à désigner le Rwanda comme responsable. C'est une position plutôt conforme à celle du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine qui n'a pas pointé encore une fois aux grandes dames de Kinshasa le rôle du Rwanda dans cette guerre lors de sa réunion tenue en toute urgence hier à Addis Abeba.
Côté américain, après avoir appelé Félix Tshisekedi, le chef de la diplomatie américaine a téléphoné au président rwandais.
Marco Rubio a exhorté Paul Kagame à un cessez-le-feu immédiat dans la région avant d'appeler au respect par toutes les parties de l'intégrité territoriale souveraine de la RDC selon le département d'État. Le président rwandais, lui, a salué une conversation qu'il a qualifiée de productive en évoquant sur X la nécessité d'assurer un cessez-le-feu dans l'est de la RDC et de s'attaquer, selon le président rwandais, aux causes profondes du conflit une fois pour toutes. Enfin, premier pays à aller plus loin que de simples exhortations verbales, l'Allemagne, qui vient de mettre sur pause des discussions avec Kigali sur son aide au développement. Mais on est encore très loin, Nicolas, de la pression qui avait été exercée sur le Rwanda lors de la prise de la ville de Goma en 2012 par le M23, appuyée là aussi par Kigali.
J'ajoute que la présidence congolaise a fait savoir ce matin que Félix Tshisekedi ne participerait pas à la réunion que le président kényan William Ruto voulait organiser avec son homologue rwandais Paul Kagame. La commission de chercheurs franco-camerounais chargée d'analyser le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes présentait hier son rapport au président Paul Biya. C'était au cours d'une cérémonie à Yaoundé. Florence Maurice, les auteurs confirment que la France a bien mené une guerre de décolonisation contre les indépendantistes camerounais, une guerre marquée par des violences extrêmes, une guerre amorcée dès 1945, mais qui ne s'arrête pas après l'indépendance du Cameroun.
Non, indépendance formelle qui, peut-on lire dans ce rapport, ne constitue absolument pas une rupture nette avec la période coloniale. Le garde des Sceaux français de l'époque, Michel Debré, participe à la rédaction de la Constitution du Cameroun. Et la France, peut-on lire, reste impliquée dans la répression violente. Des traités bilatéraux sont signés qui donnent un blanc-seing à l'armée française pour continuer de participer à ce qui est qualifié de maintien de l'ordre dans un pays censé être indépendant. Les violences atteignent même leur paroxysme, selon ce rapport, début 1960. En avril-mai de cette année-là, l'armée française se livre, par exemple, à des bombardements à l'aide de cartouches incendiaires. L'usage du napalm est écarté, mais dans ce rapport, les auteurs insistent, ces cartouches provoquent d'importants dégâts.
C'est au cours de cette même année 1960, Florence, que la France se rend responsable, selon les auteurs du rapport, de la mort de plusieurs leaders indépendantistes.
Oui, au total, l'État français est désigné responsable de la mort et de l'assassinat de 5 leaders indépendantistes. Les deux premiers, Isaac Niobe-Panjok et Ruben Oumniobé en 1958, donc avant l'indépendance, mais 3 au cours du seul mois de novembre 1960, Félix Moumier, empoisonné par un agent secret à Genève, mais aussi Paul Momo et Jérémine Delélé, tués en novembre 1960, donc dans des opérations menées par les Français. Dans ce rapport, tout de même, la relation entre le premier président du Cameroun indépendant et la France n'est pas analysée uniquement sous le prisme de la France-Afrique. Les auteurs questionnent ce terme. Ils préfèrent parler d'une conjonction d'intérêts entre ce nouveau président qui se sait faible et Paris qui veut pérenniser son influence, le tout dans une relation de négociation et d'interdépendance, selon les auteurs de ce rapport.
Au Tchad, l'opposant Succès Masra, prêt à travailler avec le président Déby. Le président des transformateurs, qui avait pourtant boycotté les dernières législatives, a répondu hier à l'appel de Mahamat Idriss Déby, qui s'était dit prêt, je le cite, à tendre une main fraternelle à tous les partis politiques. Dans un discours diffusé sur sa page Facebook, Succès Masra a reconnu les résultats des législatives et déclarer avoir confiance.
J'exprime et je réitère notre disponibilité à donner une nouvelle chance à l'avenir de notre pays en acceptant de travailler avec le président de la République pour la stabilité et le développement de notre pays. Hier, comme aujourd'hui, nous sommes disponibles au dialogue. C'est pourquoi, dès demain matin, nous sommes prêts à œuvrer avec le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby, pour apporter avec tous autour de la table la valeur ajoutée de notre force politique à ce rendez-vous qui est un rendez-vous républicain au service du peuple tchadien. Saisissons les mains tendues et tendons-nous les mains.
Propos recueillis par Nadia Ben Mahfoud. N'Djamena toujours, le MPS organise aujourd'hui un congrès extraordinaire. Le parti au pouvoir depuis 30 ans se réunit sur décision du président Déby. Celui qui est aussi président d'honneur du parti demande au cadre du mouvement patriotique du salut de réfléchir à l'avenir, à l'ère de la refondation du Tchad. Le congrès doit également déterminer qui seront les têtes d'affiche du parti dans les prochaines années. Ses conclusions sont attendus en fin d'après-midi.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, l'inquiétude des migrants illégaux africains aux États-Unis et les sports du football, grande soirée Ligue des Champions en Europe. On verra dans quel état d'esprit sont les joueurs du continent. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce mardi, le Bénin, le procès d'Olivier Bocco, Osvaldo Mekki et consorts pour complot contre l'autorité de l'État a repris ce matin à Cotonou. L'avocat de l'État plaide en ce moment. Maître Kakpo Asogba demande à la Cour de condamner Osvaldo Mekki, Olivier Bocco et son beau-frère en fuite à payer 77 milliards de francs CFA à l'État pour réparation des préjudices subis. Il demande aussi la saisie de leurs biens. Le réquisitoire du ministère public est attendu demain. Donald Trump avait promis dans sa campagne l'expulsion massive des migrants illégaux des États-Unis. Eh bien, à peine retourné à la Maison-Blanche, le nouveau président a décrété l'état d'urgence à la frontière sud avec le Mexique. Objectif, stopper les entrées illégales. L'inquiétude parmi les migrants est grande, et notamment parmi ceux venus d'Afrique. Ils étaient 58 000 à la frontière avec le Mexique en 2024, selon les données des douanes et de la protection civile. Diarouga Aziz Baldé.
Mamadou Alpha Diallo est l'un de ces migrants africains entrés illégalement par la frontière sud des États-Unis avec le Mexique. Ce Guinéen vit et travaille à Philadelphie en attente de son rendez-vous pour sa demande d'asile. Mais le décret du président américain sur l'état d'urgence à la frontière sud avec le Mexique ne le rassure pas.
Nous qui vivons encore ici avec ces mêmes procédures, nous avons peur. À tout moment, ce président peut prendre des décisions, des décrets qui annulent notre procédure. Il ne respecte pas les droits de l'homme, donc il peut affecter les procédures.
Des procédures pour le droit d'asile que Donald Trump a qualifié de ridicules. Il promet des expulsions massives. De quoi susciter l'inquiétude de Fadoul Zakaria, président de l'ONG Démocratie et droits de l'homme africain, qui aide les migrants dans leurs différentes procédures.
Ce qui m'inquiète, c'est que le ministère de la Sécurité intérieure a annoncé mardi qu'il mettait fin à une politique qui limitait la capacité des agents à arrêter des personnes sans papier, même dans les lieux sensibles, hein, notamment les lieux de culte, les écoles et les hôpitaux. Donc il n'y a pas de place où on peut être à l'abri en fait.
Selon Fadoul Zakaria, les migrants africains en situation irrégulière aux États-Unis seraient près de 300 000 dispersés sur le territoire américain.
Les sports, la Ligue des champions de football, quels seront les 24 clubs qualifiés pour la suite de la compétition? Eric Mamrut, réponse ce soir à l'issue de la 8e et dernière journée de la phase régulière.
Un dénouement en guise de feu d'artifice, Nicolas, avec 18 matchs à l'affiche en simultané à partir de 20h temps universel. Ce sera d'ailleurs à suivre à l'occasion d'une soirée spéciale sur RFI. Tous les résultats minute par minute avec en fil rouge deux matchs sur place. Cédric de Oliveira sera en Allemagne pour Stuttgart, Paris Saint-Germain. Actuellement 22e au classement, le PSG du Marocain Achraf Hakimi se doit de ramener au moins un point de son déplacement pour assurer sa place en barrage. Thomas de Saint-Léger, lui, sera à Guingamp en Bretagne pour le duel très attendu entre le petit poussé brestois et le Real Madrid. Brest qui, curieusement, est mieux classé que son prestigieux adversaire tenant du trophée. Les deux équipes sont certaines de disputer au minimum les barrages, mais le club français se prend à rêver d'un exploit face au Grand Real. L'international bissau-guinéen de Brest, Mama Baldé, en tout cas, est confiant.
Oui, c'est possible. On va faire qu'est-ce qu'on peut contrôler. Et qu'est-ce qu'on peut contrôler, c'est regarder en nous-mêmes. Ça va être un bon match, même pour nous. Je trouve que c'est des bons joueurs en face. Et ça va nous permettre de montrer notre capacité aussi d'aborder le match. Et je trouve que l'équipe est confiante pour affronter le match contre le Real.
Brest et Mama Baldé qui aimeraient imiter Lille, tombeur de Real Madrid lors de la deuxième journée de cette Ligue des Champions. C'était il y a 2 mois et demi.
Les Lillois qui, de leur côté, reçoivent le Feyenoord Rotterdam.
Avec l'objectif de s'imposer pour espérer prendre l'une des 8 premières places, synonyme d'accès direct en 8e de finale, les Lillois emmenés par le Congolais Mukau, l'Algérien Mandi et le Guinéen Bayo. De son côté, le 4e club français engagé, l'AS Monaco, visera également le top 8. Mais les coéquipiers du Sénégalais Lamine Camara et du Ghanéen Mohamed Salih devront pour cela s'imposer sur le terrain de l'Inter Milan.
Un mot, Eric, sur les autres principaux joueurs africains engagés ce soir.
Mohamed Salah et Liverpool n'ont besoin que d'un résultat nul à Eindhoven pour terminer à la première place de cette phase régulière. Le FC Barcelone suit à 3 longueurs des Reds. Le Barça qui reçoit une Atalanta Bergame privée de son feu follet nigérian Ademola Lookman, blessé au genou. Le Guinéen de Dortmund, Serou Guirassy, sera lui bien là pour défier le Shakhtar Donetsk, le Borussia, qui est assuré de jouer les barrages.
La soirée spéciale Ligue des Champions sur RFI, prise d'antenne à 19h40, temps universel. Il est 13h48 à Paris, Clotilde Dumay, les grands titres de ce mardi 29 janvier.
Plusieurs sources du Hamas indiquent à l'agence France Presse des retards dans l'arrivée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Un responsable du Hamas assure auprès de l'AFP que les retards persistants et le non-respect de ces points affecteront la progression naturelle de l'accord de trêve, y compris les échanges d'otages et de prisonniers. 6 otages israéliens doivent normalement être relâchés cette semaine, 3 demain et 3 samedi. La présidente de la Commission européenne promet 3 milliards d'euros d'investissement en Jordanie d'ici à 2027 dans le cadre d'un nouveau partenariat stratégique avec le pays. Ursula von der Leyen qui présente actuellement son plan pour la compétitivité de l'UE et qui dit vouloir relancer le moteur de l'innovation. L'Ukraine a lancé dans la nuit l'une des plus importantes attaques de drones contre les territoires russes selon Moscou. Le ministère russe de la Défense affirme avoir intercepté 104 drones au-dessus de 9 régions russes. Un enfant de 2 ans et sa mère ont été tués. Une raffinerie a été incendiée. Et puis 3 films favoris pour les Césars en France. Monte Cristo, L'amour ouf et Emilia Pérez en tête des nominations annoncées ce matin. Emilia Pérez, le film de Jacques Audiard, également présent dans de nombreuses catégories pour les Oscars aux États-Unis. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso quittent officiellement aujourd'hui la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui ne ferme toutefois pas la porte. Dans un communiqué publié ce matin, elle annonce la poursuite jusqu'à nouvel ordre des dispositions en matière de commerce et de circulation qui existent au sein de l'espace communautaire. L'avocat et politologue malien Oumar Berthé, chercheur associé à l'Université de Rouen, est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour Oumar Berthet.
Bonjour.
Comment analysez-vous le communiqué publié ce matin par la CEDEAO ?
Je pense que le communiqué émis ce matin par la CEDEAO se situe dans la droite ligne de la conférence et du communiqué émis lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue récemment pour acter la sortie de ces trois pays. Et en fait, la CEDEAO, elle se rend compte en réalité que 50 années d'intégration sous-régionale, ça n'est pas pour rien. Et les États étant donné qu'il y avait une intégration qui était particulièrement ancrée ces dernières années et qui s'est concrétisée notamment par la mise en place d'un passeport commun à l'ensemble des États membres et d'une carte biométrique également commune à l'ensemble des pays membres, de sorte qu'il n'y avait plus de frontières au sein des 15 pays membres, une rupture brutale consistant à sortir les trois pays de la CEDEAO, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso, aurait pu avoir de lourdes conséquences à la fois pour les ressortissants des pays membres de la CEDEAO et aussi les ressortissants des trois pays qui sont en train de sortir. C'est pour la raison pour laquelle la CEDEAO tente le plus possible d'atténuer les conséquences et les effets de cette sortie.
Est-ce aussi un aveu de faiblesse de la part de la CEDEAO qui craindrait de ne pas se remettre du départ de ces trois pays ?
La CEDEAO se remettra évidemment de la sortie de ces trois pays, mais ainsi qu'on vient de l'évoquer, elle tente mais vraiment le plus possible d'atténuer les conséquences de la sortie de ces trois pays sur les ressortissants de part et d'autre. Mais l'approche de la CEDEAO dès le début, dès l'instant que l'État malien, l'État du Burkina et le Niger ont annoncé leur sortie de la communauté, la CEDEAO a toujours tenté le plus possible d'engager un dialogue entre elle et ses trois pays.
Les dispositions en matière de commerce et de circulation sont donc maintenues le temps de négociation. Quels sont les points principaux, selon vous, sur lesquels vont porter les négociations à venir ?
De mon point de vue, les négociations vont porter fondamentalement sur la libre circulation des personnes et de leurs biens au sein des pays et d'autre part aussi la liberté des résidents c'est également d'établissement des résidences et fondamentalement aussi sur la libre circulation des personnes, c'est-à-dire les droits des douanes et des transits et entre l'ensemble des pays de la CEDEAO et aussi ceux de l'AIS, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais donc pour l'instant, à mon sens, ce n'est que sur ça. Et je pense que les négociations porteront sur les trois axes, les axes que la CEDEAO a fixés dans son communiqué de ce matin.
Donc c'est essentiellement avec les pays de la CEDEAO qui ne sont pas membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine que l'AES ne quitte pas pour le moment.
Alors, je pense que d'une part aussi, les pays de l'AES s'y rendent compte évidemment que le retrait de la CEDEAO pourrait avoir de sérieuses implications sur la libre circulation des personnes et de leurs biens des ressortissants de leur pays, raison pour laquelle elle n'a jamais parlé de la sortie de l'UEMOA, ce qui veut dire que elle compte sur cette disposition qui est prévue par les textes de l'UEMOA qui permet la liberté de circulation des personnes et de leurs biens dans les 8 pays membres de la communauté économique et monétaire ouest-africaine et d'autre part aussi la liberté des résidences, sauf que en ce qui concerne lui et moi, la liberté des résidences, contrairement à celle de la CEDEAO, est conditionnée à l'exercice d'une activité professionnelle. Et donc, de mon point de vue, les trois pays de l'AIS vont sortir de la CEDEAO, mais pour l'instant, étant donné qu'ils ne sortiront pas de l'UEMOA, ils vont bénéficier de ces droits au sein des 8 pays de la CEDEAO qui sont également membres de l'UEMOA.
Mais pas au sein des autres, et notamment les puissances économiques que sont le Nigeria et le Ghana.
Exactement, qui ne sont pas membres de l'UEMOA.
Il y a eu des manifestations très virulentes hier contre la CEDEAO au Burkina et au Niger, pas au Mali. En revanche, pour quelles raisons, selon vous ?
Je pense qu'au Mali, une telle manifestation aujourd'hui n'aurait pas pu mobiliser dans les rues telles qu'on l'a observé au Burkina et au Niger. Parce qu'en réalité, la situation au Mali, elle est complètement différente maintenant de ce qu'on a observé en 2022 lorsque les Maliens sont sortis massivement dans la rue pour manifester leur adhésion, leur soutien ou une résilience contre les sanctions imposées sur la CEDEAO. Les Maliens s'y rendent compte que les discours des panafricanismes qui a jusque-là permis de mobiliser les gens dans la rue a atteint une limite de telle sorte que les autorités ne se sont même pas hasardées à mobiliser les gens dans la rue parce qu'ils n'auraient pas réussi à faire sortir les gens dans la rue pour les soutenir.
Dans les négociations qui s'annoncent, qui est en position de force selon vous, l'AES ou la CEDEAO ?
Il est difficile à mon avis, d'indiquer aujourd'hui qui est-ce qui serait en position de force et qui est-ce qui serait en position de faiblesse. Mais je pense que celui qui est en position de faiblesse, c'est le peuple. Quand bien même que les manifestations qui se passent dans ces trois pays, dans ces deux pays au Mali, il n'y en a pas eu, demandant le retrait de ces trois pays de la CEDEAO, ce qui, il est constant que c'est eux qui seront les premières perdantes de la population, qui sera la première perdante de cette sortie. Et donc, à mon avis, la CEDEAO n'est ni en position de force, ni en position de faiblesse, parce que le retrait de ces trois pays ne serait aucunement amené à la dissolution de la CEDEAO. Et de l'autre côté aussi, les trois pays qui tentent de sortir et de montrer effectivement qu'ils étaient prêts, ils sont prêts, ils auront pris toutes les dispositions pour sortir. Quand on voit l'évolution de la situation sur place actuellement et notamment les rencontres qu'ils organisent entre ces trois pays, on s'y rend compte effectivement qu'ils ont des inquiétudes en ce qui concerne les conséquences de leur sortir de la CEDEAO.
Merci Oumar Berthet. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications. Rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Ce sont des archives sonores rares qui témoignent du sort des Tunisiens engagés aux côtés de l'armée française durant la Première Guerre mondiale. Ils ont été des milliers parmi les tirailleurs. Eh bien, leur voix peut à nouveau être entendue grâce à l'université Humboldt de Berlin et la phonothèque du Centre des musiques arabes et méditerranéennes, l'Allemagne vient de remettre près de 500 enregistrements de soldats tunisiens qui avaient été faits prisonniers pendant la Grande Guerre. À Tunis, le reportage de Lilia Blaise.
Un chant qui s'élève pour exprimer la dureté de l'exil et de la guerre, enregistré il y a plus d'un siècle, pendant la guerre de 14-18. Une des premières traces sonores des tirailleurs tunisiens, comme l'explique Mounir Entati, conseiller culturel et ancien directeur du Centre des musiques arabes. Il a découvert par hasard ses archives pour la première fois en 2000 lors d'une visite à Berlin pour une conférence au musée ethnographique.
Un jour, j'étais un peu fatigué, je suis allé à la bibliothèque, vraiment, ça s'est passé comme ça, et je demande est-ce qu'il y a des enregistrements qui concernent la Tunisie. Et c'était le déclenchement. Je découvre qu'il y a vraiment un énorme trésor. Et je me suis consacré pour essayer de voir les documents, pour écouter, etc.
25 ans plus tard, ces archives sont enfin rapatriées à Tunis, après beaucoup de négociations.
Et les Allemands, dans le cadre d'une révision un peu de leur politique vis-à-vis de l'héritage de la période coloniale, il y a eu de plus en plus de voix et de chercheurs en Allemagne qui ont appelé à libérer, en quelque sorte, les archives, libérer ses voix et les re-socialiser, en quelque sorte.
Ce soldat que l'on entend, Sadok Ben Rachid, fermier, était détenu dans un camp de près de 4000 prisonniers au sud de Berlin, lorsque des Allemands ont décidé de mener des expériences ethnographiques en enregistrant ces tirailleurs venus d'Afrique du Nord et subsaharienne dans leur quotidien, sur des gramophones et des cylindres phonographiques.
Il y en a qui étaient des poètes, aussi et musiciens à la fois, et donc qui ont mis des paroles sur d'autres d'anciennes mélodies pour passer des messages. Mais il y a aussi d'autres prisonniers auxquels on a demandé, par exemple, de réciter du Coran ou de chanter une chanson de leur bled. Donc c'est un peu varié. Pour moi, c'est très émouvant, évidemment, parce que c'est de l'archéologie.
Ce projet, financé par la German Lost Art Foundation, marque ainsi le début d'un travail de mémoire en Tunisie, mais pas seulement, puisque 111 des enregistrements remis à la Tunisie sont ceux de tirailleurs originaires de toute l'Afrique du Nord. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Et c'est à Tunis que se referme cette demi-heure africaine. Merci de nous avoir suivis. Dans un peu plus d'une minute, selon votre zone d'écoute, vous retrouvez Clotilde Dumay et le rendez-vous de Haïti et des Amériques. 30 minutes d'infos en full day ou notre session en langue portugaise. Quoi qu'il en soit, très bon après-midi et à demain.
Ce mercredi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Gerbrandt.
En Irlande, la culture du pub et de la bière est ancestrale, mais elle séduit moins les jeunes aujourd'hui. Depuis la pandémie, ils se soucient davantage de bien-être et de santé. Pas besoin de boire pour se faire des amis. La jeune génération échange volontiers les virées alcoolisées contre des sorties au grand air.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU sur RFI.
Jusqu'au 16 février prochain, votez pour l'un des 10 finalistes du prix Découverte RFI 2025. Le choix du public sera pris en compte lors du grand jury présidé par Angélique Kidjo qui proclamera le lauréat de cette année. Découvrez et écoutez les 10 candidats finalistes dans Couleur Tropicale ce jeudi 30 janvier, mais aussi sur le site RFI.fr, sur nos réseaux sociaux et sur le site prixdécouverte.com et jusqu'au 16 février. À vous de voter.